Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nike Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, dirigé par l'historien Patrice Gagnifet. Les derniers jours des rois est un ouvrage collectif consacré à la disparition de 19 souverains ayant marqué l'histoire de France, de Charlemagne à Napoléon III. Publié d'abord chez Perrin, il réunit des spécialistes de chaque période et de chaque règne. L'ambition n'est donc pas de proposer une histoire continue de la monarchie, mais une série d'études centrées sur un instant de rupture. Chaque chapitre reconstitue les circonstances de la mort d'un roi ou d'un empereur, maladie, assassinat, accident ou déclin physique, et les replace dans les enjeux politiques, dynastiques et symboliques de son temps. Le livre s'intéresse autant au corps souffrant, aux derniers gestes et aux paroles attribuées aux souverains qu'aux mécanismes de succession et aux cérémonies qui assurent la continuité de l'État. Accessible sans sacrifier la rigueur historique, il fait de la fin de règne un observatoire particulièrement concret du pouvoir monarchique français. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la mort du souverain comme épreuve immédiate de continuité politique. Le fil directeur de l'ouvrage est que la mort d'un souverain ne relève jamais exclusivement de la sphère privée. Dans une monarchie héréditaire, elle ouvre un moment où la vulnérabilité physique du détenteur du pouvoir doit être conciliée avec la nécessité d'éviter tout vide institutionnel. Les chapitres examinent donc les décès dans leur contexte successoral, l'existence ou non d'un héritier incontestable, l'âge du successeur, les rivalités de cour, les guerres en cours ou encore la fragilité de la légitimité dynastique. Cette perspective donne une portée politique à des événements apparemment médicaux ou domestiques. Une lente agonie permet par exemple de préparer des dispositions et de régler certains dossiers. Une mort violente ou soudaine accroît au contraire l'incertitude et peut nourrir les affrontements. L'expression rituelle « Le roi est mort, vive le roi !» condense cette exigence de permanence, le souverain disparaît, mais la royauté est censée survivre sans interruption, en allant de Charlemagne aux régimes impériaux du XIXe siècle. Le recueil rend visible l'évolution des institutions, sans effacer cette constante, la disparition du chef de l'État constitue un test décisif pour l'ordre politique. La mort devient ainsi un révélateur des forces et des faiblesses propres à chaque régime. Deuxièmement, le bien mourir, royal rituel religieux, mise en scène et légitimation. L'ouvrage souligne la singularité de la mort royale, longtemps encadrée par des pratiques religieuses et cérémonielles. Confession, dernier sacrement, recommandation aux proches, règlement des affaires du royaume et préparation des funérailles ne sont pas de simples détails pittoresques, ils participent à une mise en ordre public de la disparition. Le souverain doit idéalement mourir en chrétien, en père de ses sujets et en garant de la transmission dynastique. Cette norme du bien mourir aide à comprendre pourquoi les derniers propos, les gestes de piété ou les marques de lucidité occupent une place si importante dans les récits historiques. Ils peuvent être sincères, reconstruits par l'entourage ou retravaillés par la mémoire politique. Dans tous les cas, ils contribuent à façonner une image du règne au moment même où celui-ci s'achève. Le volume invite donc à distinguer l'événement biologique de sa représentation. Un roi gravement atteint dans son corps demeure une personne publique, observée par la cour, les serviteurs, les autorités religieuses et parfois par une opinion plus large. La ritualisation permet de convertir la déchéance physique en une sortie ordonnée, compatible avec la dignité de la fonction. Elle éclaire aussi la dimension sacrée longtemps attachée à la monarchie française. Troisièmement, assassinat, maladie et accident des fins de règne aux effets contrastés, la diversité des morts constitue l'un des intérêts concrets du recueil. Les souverains étudiés ne disparaissent pas selon un modèle unique, certains succombent à la maladie ou à la vieillesse, d'autres sont frappés par un accident, et plusieurs meurent assassinés. Cette variété ne sert pas seulement à produire des épisodes spectaculaires. Elle montre comment la nature d'un décès influe sur son interprétation politique et sur la mémoire collective. L'assassinat d'Henri III par Jacques Clément ou celui d'Henri IV par Ravaillac prennent immédiatement place dans des crises de légitimité, de religion et de sécurité du pouvoir. Ils soulèvent des questions de responsabilité, de complot, de protection du souverain et de fidélité des élites. À l'inverse, les longues fins de règne de souverains vieillissants exposent plus clairement les tensions entre l'autorité théorique du monarque et sa capacité effective à gouverner. Les maladies, parfois décrites avec précision par les sources, rappellent que le pouvoir repose aussi sur un corps vulnérable. Les auteurs ne réduisent toutefois pas l'histoire à la cause médicale du décès, ils analysent comment les entourages, les institutions et les récits transforment une mort en événement d'État. Le lecteur comprend ainsi que le caractère tragique d'une disparition dépend autant de ses conséquences politiques que de ses circonstances immédiates. Quatrièmement, une histoire de France en 19 études confiées à des spécialistes, la forme collective est essentielle à la valeur du livre. Patrice Gagnifet en assure la direction et contribue lui-même au chapitre sur Louis XVI. tandis que chaque souverain est confié à un historien connaissant particulièrement la période où le règne étudié. Le volume réunit notamment des contributions de Georges Minois. Laurent Hess, Jacques Le Goff, Philippe Contamine, Jacques Hirsch, Didier Le Fur, Jean-Christian Petitfils, Simone Berthière, Thierry Lenz et Éric Anceau. Cette distribution évite qu'un seul auteur applique uniformément ses préférences ou ses interprétations à plus d'un millénaire d'histoire. Les cadres changent profondément entre les temps carolingiens, capétiens, modernes, révolutionnaires et impériaux sources disponibles, rôle de la religion. Structure administrative, place de la cour et rapport entre souveraineté et nation ne sont pas identiques. Les chapitres conservent une cohérence thématique, tout en respectant ces différences. Ils peuvent être lus dans l'ordre chronologique, comme une traversée discontinue de l'histoire politique française, ou séparément selon l'intérêt du lecteur pour un monarque. Ce choix éditorial associe une visée de synthèse à la spécialisation savante. Il offre moins une thèse unique et fermée qu'un ensemble de dossiers convergents, où l'on voit comment la fin des souverains éclaire les transformations de l'État et de la culture politique française. En dernier lieu, du corps du roi au destin posthume mémoire. Funérailles et fabrication des images monarchiques, les derniers jours ne s'arrêtent pas nécessairement au dernier souffle. Le traitement du corps, les funérailles, les sépultures et les récits ultérieurs prolongent l'enjeu politique de la mort. L'ouvrage attire ainsi l'attention sur la manière dont un souverain devient une figure de mémoire héros, martyr, tyran, victime ou symbole d'un monde disparu. Les cérémonies funéraires peuvent affirmer la grandeur dynastique. Les atteintes postérieures aux tombes royales, notamment durant la Révolution, témoignent inversement de la volonté de rompre avec cet ordre symbolique. L'exemple de la tête attribuée à Henri IV, longtemps au cœur de controverses après les profanations de Saint-Denis, illustre la persistance matérielle et imaginaire de ces morts dans la culture historique française. Le recueil ne confond pas pour autant légende et documentation, il incite à regarder les anecdotes, les paroles finales et les portraits posthumes comme des constructions qui demandent à être replacées dans leurs sources et leurs usages. Cette prudence est précieuse car les morts royales sont volontiers romancées. En montrant comment l'événement est raconté, commémoré ou instrumentalisé, le livre complète l'histoire politique par une réflexion sur les représentations. Il explique pourquoi des décès vieux de plusieurs siècles continuent d'occuper une place si forte dans le récit national. En conclusion, Les derniers jours des rois s'adresse d'abord aux lecteurs d'histoire de France qui souhaitent aborder les grands souverains par une porte d'entrée moins convenue que le récit intégral de leur règne. Il conviendra également à ceux qui s'intéressent aux rituels politiques, à la succession dynastique, à la place du corps dans l'exercice du pouvoir et à la construction de la mémoire historique. Sa structure en chapitres autonomes, en fait un livre commode, on peut le lire de manière suivie, de Charlemagne à Napoléon III, ou choisir un épisode selon ses centres d'intérêt. Le bénéfice intellectuel tient à la méthode implicite de l'ensemble partir d'une mort concrète pour saisir les institutions, les tensions et les croyances d'une époque, sans isoler l'anecdote de ses conséquences politiques. Par rapport à une biographie royale classique, l'ouvrage ne prétend pas restituer toute une existence ni toutes les dimensions d'un règne. Il privilégie le moment où l'autorité se fragilise, où les entourages se mobilisent et où la continuité de l'État doit être démontrée. Par rapport à une simple chronique de mort célèbre, il se distingue par la compétence de ses contributeurs et par l'attention portée aux sources, aux contextes successoraux et aux usages mémoriels. L'écriture accessible et la pluralité des cas permettent enfin de relier des périodes très éloignées sans les confondre. C'est donc un recueil de vulgarisation historique solide. Particulièrement utile pour comprendre que la mort des souverains fut aussi une scène majeure de l'histoire du pouvoir en France. Si vous souhaitez soutenir Patrice Guenifet, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.